Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Réjouis-toi, terre entière, un enfant nous est né, le Fils nous est donné, Jésus, Emmanuel, Dieu vient nous sauver. Il est joie dans nos tristesses, il est lumière dans nos ténèbres, il est la paix au milieu de nos guerres, il est le soleil de la vie dans la nuit de la mort. Dieu vient nous sauver, c'est Noël, tout simplement. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de l'enfant de Bethléem. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, en ce jour de fête. Je vous invite à la prière. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, tu te manifestes par des anges qui nous interpellent, qui nous parlent de ta volonté, de ta vision des choses et qui nous annoncent ta venue. Tu te fais connaître à ceux qui sont pauvres et humbles comme les bergers. Nous nous savons aimés de toi et nous voulons ressentir ta présence, ta lumière, ton amour. Oui, nous désirons cette relation d'amour avec toi, nous désirons cette espérance en l'avenir, cette espérance en ta venue prochaine dans nos vies. Alors nous t'en prions, fais-nous connaître ton amour dans ce culte, dans nos vies quotidiennes, rends-nous conscients de ta présence. Amen. Et je vous invite à vous levez pour bénir l'Éternel. Nous louons l'Éternel. Seigneur notre Dieu, en cette fête de Noël, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Nous te disons merci pour la grâce de ta joie. Le chant des anges a retenti. Les bergers sont accourus vers l'enfant, et dans leur cœur tu as fait grandir la joie. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, prince à jamais, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci pour la grâce de ta présence, Père de Jésus le Christ, Dieu notre Père. Béni sois-tu pour l'enfant né de Marie et pour l'Esprit qui le fait vivre. Pour lui, nos maisons deviennent des maisons du pain, des Bethléem ouverts à celles et ceux qui frappent à notre porte. Ils sont frères et sœurs de celui que les siens n'ont pas reçu. Seigneur notre Dieu, en ce jour de Noël, nous te rendons grâce et nous te louons avec les anges et les bergers. Je vous invite à chanter au psaume 8, les strophes 1, 2 et 6. Au psaume 8.
Seigneur,
Écoutons ce que Dieu désire. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde, c'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre, en lui et par lui. Tout peut prendre un sens. Si tu agis, tout peut recommencer, tout devient possible, car Christ est vivant. Amen. Seigneur, nous te confessons maintenant nos fautes et nos manquements. Nous te remettons tous nos jours passés, la lourdeur de nos instants sans foi, le vide de nos instants sans toi. Nous te remettons nos oublis et nos paresses, notre indifférence et notre égoïsme, notre désertion de cette tâche que tu nous confies. Nous te remettons notre manque d'amour, nos tricheries, nos veuleries et tous nos doutes. En toi seul est notre espérance, en toi seul notre courage peut renaître. Seigneur, prends pitié de nous. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite, c'est maintenant le temps du pardon. Que personne ne pleure, car le Seigneur est là. Levez-vous debout, ne restez pas à terre, vous étiez humiliés et meurtris, mais maintenant parlez. Relevez la tête, le Seigneur est là, il est venu pour vous, il vous apporte la paix, le pardon, la liberté, l'espérance. Oui, Seigneur, tu es cette force qui nous met en route. Tu nous appelles au-delà de nous-mêmes pour nous rendre participants d'une vie nouvelle. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Je crois en Dieu, le Père plein de patience et de tendresse, qui a créé le ciel des anges et la terre des hommes. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, lui qui nous aide à vivre dans la paix et le pardon. L'Esprit Saint lui a donné la vie en Marie. Pour avoir aimé les faibles et les petits, il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort sur une croix. Il a été relevé. Quelle bonne nouvelle pour tous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous inspire tout ce qui est bon. Je crois que l'Église universelle unit tous ceux qui vivent en Dieu. Elle est sainte et joyeuse comme nos fêtes. Je crois au pardon toujours possible. Je crois à notre résurrection. Je crois à la vie éternellement belle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Vous entendrez, comme hier soir, l'évangile de la Nativité dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique 101 au peuple fidèle. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, le cantique 101 au peuple fidèle. Je vous invite à vous lever. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille un ami attendu. Donne-nous de la recevoir comme un présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. On nous l'a dit, on nous l'a répété, on le sait ou on devrait le savoir. Les évangiles ne sont pas d'abord des récits historiques. Ils n'ont pas pour but premier de nous raconter la vie de Jésus. Ce sont en vérité des confessions de foi qui ont été mises en récit. Et dans ces évangiles, les premières communautés chrétiennes expriment leur foi dans le Christ ressuscité. Les actes et les paroles de Jésus de Nazareth prennent tout leur sens, la plénitude de leur signification, à la lumière de la résurrection. Cette résurrection qui est au cœur des écrits du Nouveau Testament. Alors, bien sûr, il est possible que le récit de la Nativité ait été rédigé également pour répondre à la curiosité de celles et ceux qui s'interrogeaient sur l'origine de ce personnage hors du commun. La naissance et l'enfance d'un grand homme sont toujours source d'interrogations et d'intérêt. Mais, il faut bien mesurer le fait que les évangiles de l'enfance ont été rédigés avant toute chose pour rendre compte de la venue dans le monde de celui qui est confessé dans la foi de l'Église comme Sauveur, Christ et Seigneur. Si Jésus est ce vivant qu'il ne faut plus chercher parmi les morts, d'où vient-il et comment est-il entré dans ce monde? La question est légitime. Je vous propose donc d'entendre cet évangile de la Nativité en Luc comme la bonne nouvelle de la naissance du ressuscité. D'ailleurs, si l'on y prête attention, on s'aperçoit finalement que le récit de Noël est conçu et construit comme celui de Pâques. Autour de la crèche, comme autour du tombeau vide, il se passe quelque chose. Au matin de Pâques, comme dans la nuit de Noël, des hommes et des femmes sont interpellés par des anges ou des hommes en habits de lumière qui leur livrent le sens de ce qui vient de se passer. Enfin, dans l'un et l'autre cas, celles et ceux qui ont bénéficié de cet éclairage se mettent en route pour aller à leur tour annoncer à d'autres cette bonne nouvelle d'une vie qui commence ou qui se renouvelle. Voilà, Pâques, Noël, une symétrie qui devrait nous interroger. Trois scènes, trois tableaux que je vais reprendre. La crèche, premièrement. La naissance d'un enfant, c'est une scène d'une simplicité absolue. L'enfant est pareil à tous les autres enfants du monde, ni plus grand, ni plus beau, ni plus fort. L'Évangile se garde bien d'enjoliver ce qui se déroule à la crèche. Ici, les choses et les gens sont simples. Un enfant dort sur la paille, langé par la nuit, bercé par l'amour de sa maman. C'est une naissance, comme toutes les autres naissances. Et nous savons bien que les commencements sont toujours humbles et modestes, comme est simple l'attitude de cette mère qui accomplit les gestes millénaires de la vie. Elle emmaillote son petit et elle le couche. Mais tous les enfants sont aussi de petits dieux, et comme celui de Bethléem, des dieux pauvres et nus. Celui-ci, son souffle est doux, parfois il soupire, sa main se crispe légèrement, il a des idées sans rides, un front tout neuf, son visage est encore tourné vers l'intérieur, scellé sur des rêves qui n'appartiennent qu'à lui. Il est prêt à à recommencer le monde, il est merveilleusement unique, véritablement premier-né. Car voyez-vous, toute naissance, aussi banale soit-elle, est un événement. À rigoureusement parler, c'est même un événement incompréhensible. Elle n'est jamais vécue. Je ne nais pas. Je suis né. Ma naissance, tout en m'étant arrivée, m'est à jamais étrangère. Je n'en ai jamais eu conscience. Je n'en garde aucun souvenir. Tout au plus puis-je l'imaginer. Mais si la naissance est advenue, elle est aussi à venir. Et l'enfant qui naît est d'ailleurs désigné sous ce vocable tellement beau de nouveau-né. Le nouveau-né est un être qui n'a jamais été vu. Il apparaît pour la première fois dans le monde et de ce fait même le renouvelle. Comme il est autre, unique, irremplaçable, il ne peut pas être la reproduction de quelque chose de connu. Un nouveau-né, c'est une promesse formidable de renouvellement. Et c'est le sens de la célébration de la natalité à laquelle s'est livrée la philosophe Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne lorsqu'elle écrit « Le miracle qui sauve le monde ». Le domaine des affaires humaines, de la ruine normale et naturelle, c'est finalement le fait de la natalité. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Oui, donner naissance, c'est faire apparaître dans le monde un être nouveau, un être doué de la faculté spécifiquement humaine d'innover. Ce que nous dit finalement l'Évangile, un enfant nous est né et voici que tout devient possible. Et à cet égard, on ne peut comprendre la naissance d'un être humain comme un simple processus naturel de reproduction de la vie, justement parce que la naissance, elle vient interrompre ce processus de la nature. Les hommes ne naissent pas et ne meurent pas comme naissent et meurent les feuilles au printemps et à l'automne. Ce qui est naturel, c'est l'usure des choses. Eh bien, la natalité, la nativité interrompt ce processus et ouvre à l'infini le champ des possibles. Donc, dans la nuit de Bethléem, un enfant vient au monde, c'est à la fois banal et sublime, c'est une histoire absolument singulière et en même temps tout à fait universelle, c'est la promesse d'un avenir dont personne en cet instant ne possède le secret. Voilà, un événement. Mais alors, quel sens faut-il donner à ce qui est en train de se passer? Eh bien, le sens nous en est livré par Dieu en personne. Le sens nous est donné, tout comme l'enfant nous est donné. Dans la nuit, une lumière resplendit et une voix se fait entendre. Des anges, les communicants de Dieu. La transcendance de celui qu'on appelle l'Éternel fait irruption dans l'histoire des hommes. Le temps interrompt le temps des hommes et le remplit de l'éternité de Dieu. Nous assistons à l'irruption d'une parole venue d'ailleurs, sans que rien ne l'annonce ni n'en laisse prévoir le surgissement. Le message, il signifie que la communication est définitivement établie entre Dieu et sa création. Le message invite les hommes à ne plus avoir peur. Dieu veut les apprivoiser et il leur adresse une promesse de bonheur et de joie. La gloire de Dieu, c'est la vie et la paix pour les hommes. Et la vie et la paix pour les hommes, c'est de reconnaître cette présence de Dieu parmi eux. Et celui qui va être l'artisan de cette réconciliation, de cet accomplissement, c'est un personnage dont les anges révèlent en cet instant l'identité et la vocation, ce qu'il est et ce qu'il est appelé à devenir, Sauveur, Christ et Seigneur. Et nous avons là un condensé de tous les titres christologiques, comme disent les théologiens, de tous les titres attribués à Jésus par l'Église qui confesse sa foi et qui reconnaît l'action du Dieu vivant et vrai au cœur d'un monde qui, pourtant, gémit encore dans les douleurs de l'enfantement. Mais dans cette révélation, dans cet apocalypse où le sens nous est donné, il y a un paradoxe. Un signe est donné en guise de confirmation. Mais ce signe est paradoxal. On sait que dans les Écritures, on appelle signe toutes les manifestations solennelles du divin, depuis les tremblements de terre jusqu'aux guérisons et aux miracles. Et apparemment, des signes de ce type, dans la nuit de Bethléem, il y en a. Les anges rassemblés en ordre de bataille, la grande lumière, les hymnes. Mais tout ça, ce ne sont pas véritablement des signes, tout au plus des indicatifs. En fait, cette nuit-là, il n'y a qu'un seul signe, un signe qui n'en met pas plein la vue. On pourrait même dire que le signe s'efface et que son effacement même devient un signe. Ce signe, c'est un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Un signe discret, un signe à la limite du secret et déjà un signe de contradiction. Un signe qui cache Dieu et qui ne le dévoile que dans les humilités et les contradictions. Contradiction de la puissance. Christ est Seigneur, nous assurent les anges, mais pour l'heure, c'est Auguste qui paraît être le véritable maître du monde. C'est l'empereur qui ordonne un recensement pour connaître le nombre de ses sujets. Joseph et Marie sont jetés sur les chemins comme des réfugiés et des personnes déplacées. Le petit enfant est seigneur de la création et de l'histoire, mais voilà, c'est César qui occupe maintenant la première place et qui semble être le maître universel. Contradiction de l'habitation. Alors que l'empereur, par un oukase, envoie le monde entier sur les routes, déjà le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Lui qui est fils de David, il vient dans sa bonne ville de Nazareth et il doit se contenter d'un abri de fortune. Autre contradiction, il est vivante parole de Dieu et pour l'heure, il est réduit au silence. Autant d'abaissements, autant de contradictions qu'il faut savoir décrypter parce qu'elles révèlent la manière divine de faire. Dieu ne vient pas à nous dans le faste, la puissance et la gloire. Il vient dans l'humilité, la petitesse et le dénuement. Oui, le Sauveur du monde, celui que nous confessons comme tel, se manifeste dans la faiblesse extrême. Oui, le salut de Dieu, c'est dans la petitesse qu'il faut en repérer les signes et ainsi les interpréter. C'est pourquoi les bergers se sont rendus à Bethléem. Ils ont voulu voir la chose arriver, voir ce qui leur avait été dit pour comprendre ce qui se passait. Et la foi, elle naît de cette rencontre entre l'événement et l'interprétation qu'on en donne. Oui, les bergers entrent dans la foi parce que croire, c'est laisser la parole transfigurer l'événement en le voyant tel que Dieu le voit. Ces bergers ont d'ailleurs compris ce qui arrivait bien mieux que ne l'eussent fait les docteurs, les scribes, les maîtres de la loi. En fin de compte, ils trouvent tout naturel que Dieu soit présent dans un enfant. Oh, sans doute, leur veille les ont-ils préparés au discernement. Ils ne sont pas, eux, motivés par l'ambition, par l'appât du gain, par le goût du pouvoir. Ce sont des pauvres, et ils ont la faiblesse de croire en un Dieu qui se livre à l'homme d'une manière aussi désarmante qu'inattendue. Oui, ces bergers, ce sont des petits, des obscurs, des sans-grades, qui sont sur la même longueur d'onde, finalement, que le Dieu qui s'abaisse dans ce que la condition humaine peut receler de plus fragile et de plus précaire. Alors, après l'événement, après l'interprétation et le sens, j'en viens à la troisième étape, le troisième moment qui est celui de la proclamation. Les bergers se mettent en route. Ils deviennent porteurs de sens et messagers de la bonne nouvelle. Ce qu'ils viennent de recevoir, ils brûlent de le transmettre à leur tour. Ils se mettent en route pour raconter tout ce qui leur avait été dit au sujet du nouveau-né. Oui, ils prennent la relève des anges et désormais, ce sont des êtres de chair et de sang qui reçoivent mission de la part de Dieu. Ces êtres terre à terre, issus d'un prolétariat méprisé et rejeté, ne seraient d'ailleurs propres qu'à ôter tout crédit à la nouvelle. Mais voilà, le message convoque des messagers à sa ressemblance. Oui. Les premiers destinataires de cet évangile, d'ailleurs, c'est Marie et c'est Joseph. À celle qui vient de mettre au monde le petit enfant, il confirme le message que Gabriel avait annoncé à la jeune femme dans la petite chambre de Nazareth. Et cette première étape franchie, voilà qu'il se remet en route, infatigable, pressé. Il ne sert à rien de rester à la crèche. Non, il faut aller plus loin. Ce qui compte désormais, c'est d'annoncer au monde qu'aujourd'hui s'ouvre le temps de la paix et de la joie. Et à cet égard, c'est sans doute cet élément de la proclamation qui est l'événement fondateur de notre foi. La proclamation du message de la Nativité fait partie du mystère de Noël. Et ce message de Noël n'est pas fondamentalement différent de celui de Pâques, c'est celui d'une vie nouvelle, offerte par Dieu, qui ouvre à tous les hommes de bonne volonté les perspectives d'un monde réconcilié et renouvelé. Voilà trois temps, l'événement, le sens, la communication. Eh bien, ces trois temps, voyez-vous, ils nous aident à comprendre ce qu'est la foi. Il s'agit pour nous de voir, de juger et d'agir. Oui, voir. Nous sommes invités à ouvrir nos yeux et nos oreilles. La venue de Dieu, elle s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Dieu n'est pas à chercher ailleurs que sur la terre des hommes. Les choses ne se passent plus dans les lieux très hauts, là où résonnent les cœurs angéliques. Les choses se passent ici, sur notre terre, dans des villes où les foules s'entassent et s'agitent, dans un monde où les pouvoirs s'affirment avec brutalité, dans un monde où, si l'on est sans ressources, on se retrouve très vite sans toit et sans abri. Mais c'est ce monde-là que Dieu vient visiter et sauver. Et toutes ces réalités de la vie du monde, de la vie des sociétés et des personnes, ce sont des signes faits pour être interprétés. Nous avons un jugement à porter. Et le sens de ces événements, eh bien, c'est la foi qui nous le donne. Alors, la naissance de cet enfant, quelle en est finalement la signification ? De quoi s'agit-il ? D'une fable, d'un conte destiné à rafraîchir notre âme d'enfant, destiné à nous faire oublier la rigueur et la dureté de la vie, quelques heures durant, à force de champagne, d'illumination et de cadeaux ? Mais au contraire, frères et sœurs, le cœur intérieurement illuminé par l'Esprit, nous pouvons reconnaître dans le signe de l'enfant ce signe de faiblesse. Dans tous les signes de la vie de notre monde, nous pouvons y reconnaître la manifestation d'un Dieu qui, sans bruit, vient travailler et faire lever la patte humaine. L'action de Dieu est patiente. Il faut laisser du temps à la foi pour qu'elle devienne apte à discerner et à reconnaître. L'évangéliste Luc a d'ailleurs le soin de nous rappeler que Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle est, tout comme chacun d'entre nous, entrée dans ce long travail de l'apprentissage de la foi. Et puis après l'événement, après l'interprétation, le temps de l'action, je l'ai dit, il ne s'agit pas de rester à la crèche, le message divin ne peut rester en l'air, dans cet ailleurs resplendissant de la gloire de Dieu. Le message, il doit s'incarner, les bergers reçoivent vocation, et nous aussi. Noël ne prend tout son sens que si nous, également, à notre tour, nous nous mettons au travail, si nous nous donnons de la peine, de telle sorte que le message d'une paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté ne reste pas un vœu pieux ou un slogan bien pensant. Alors, voir, juger, agir, et peut-être encore célébrer. C'est ce que nous faisons maintenant. Comme les bergers, nous glorifions et nous louons Dieu. Comme Marie, nous gardons toutes ces choses en notre cœur et nous les repassons. Nous ne sommes pas à Bethléem, mais aujourd'hui, nous sommes contemporains de l'événement. Animés par la foi, nous pouvons rendre grâce d'un cœur empreint de reconnaissance, car la logique de Noël, tout comme celle de Pâques, est celle de la gratuité d'un don inconditionnel, ainsi que de la confiance que nous accordons à celui en qui ce don s'est incarné. Oui, sans bruit, Dieu est entré dans notre histoire, et la première image que nous en recevons est le sommeil d'un innocent. La foi, notre foi, cette foi qui naît sur un tas de paille, elle est fidélité et espérance, elle est mémoire des hauts faits de Dieu, et elle est ouverture à l'avenir. Avec nos pauvres mots humains, avec nos actes apparemment si limités, nous pouvons néanmoins annoncer et préparer le règne de la justice et de la paix. Aujourd'hui, c'est Noël. Amen. Thank you. Nous allons chanter le cantique numéro 102, « Sortez bergers de vos retraites ». Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Le cantique 102, « Sortez bergers de vos retraites ». Je vous invite à vous lever. C'est maintenant le temps des annonces.
Juste quelques annonces pour la fin de ces périodes de fête. Merci à vous d'être si nombreux en ce matin pour écouter ce culte. Dimanche 31 décembre, le culte aura lieu à 10h30 par Pierre-Olivier Léchaud, historien et théologien. Il y aura ensuite un accueil et une rencontre dans la sacristie à l'issue du culte. Le samedi 6 janvier, reprise des activités à l'oratoire avec l'hébreu biblique découverte de 10h à 11h avec le pasteur Gilles Castelnau. Ce sera suivi ensuite de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de concerts s'inaugurera l'oratoire grâce à la nouvelle équipe constituée. Et David Cassan nous propose, samedi à 17h, une improvisation sur le film muet « Le fantôme de l'opéra ». Libre participation aux frais. Vous trouverez sur le site de l'oratoire qui est en train de se redoper toute la liste de ces concerts du samedi, le premier samedi de chaque mois à 17h. Un organiste fera sonner notre orgue pour sa plus grande gloire et celle de l'oratoire. David Cassan nous accompagne ce matin. Le 7 janvier, le culte aura lieu à 10h30 par le pasteur Jean-Pierre Rive et à l'orgue, ce sera Sarah Kim. Je vous invite donc à consulter le site si vous avez des hésitations ou si vous voulez trouver les dates, nous essayons de lui redonner une bonne vitalité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt.
Merci. Nous aurons, à l'issue de la collecte, un service de Sainte-Seine. Pendant le service de Sainte-Seine, le temps de la communion se passera en silence pour nous aider dans le recueillement. C'est maintenant le temps de la collecte. Je vous invite à être généreux.
Louons l'Éternel. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, Père très bon, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Remplis de l'Esprit Saint, Siméon et Anne ont reconnu dans l'enfant le Messie promis, lumière pour tous les peuples. C'est pourquoi, avec eux, avec Joseph et Marie, avec les bergers de Bethléem, avec celles et ceux qui, au cours des âges, ont célébré ta louange, nous chantons maintenant ta gloire. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau » dans le royaume de Dieu. Nous prions. Père, ton Fils est venu. Il a proclamé l'évangile du royaume. Il a vécu parmi nous. Il est mort. Il est aujourd'hui vivant. Il nous appelle à une vie nouvelle. Dieu notre Père, envoie sur nous ton Esprit pour que nous soyons en communion avec lui et les uns avec les autres. Accorde-nous d'être témoins d'espérance sur toute la terre. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En tout temps et en tout lieu, l'Église est la servante du Seigneur, c'est pourquoi elle invite à s'approcher de la table de communion tous ceux, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance, qui ont entendu l'appel du Christ et qui dans leur cœur ont répondu oui. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Venez maintenant, car tout est prêt. Jésus est le pain de vie, celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Allez dans la paix de votre Seigneur.
Ô notre Dieu, pour ce pain et ce vin partagé, nous voulons te rendre grâce. Pour la joie et l'espérance qui nous sont données, nous te bénissons. Pour les chemins que tu ouvres de devant nous, nous te disons merci. Au cœur de cette fête de Noël, nous n'oublions pourtant pas que notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Nous pensons à celles et ceux qui ont perdu un être cher, un être proche. Parle, parle Seigneur pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que la paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. Je vous invite à vous lever pour recevoir maintenant la bénédiction de Dieu. Sur tous vos chemins de joie et de peine, le Seigneur de Noël vous accompagne de sa présence. Il ouvre vos yeux afin que son visage vous soit révélé dans l'humilité et la discrétion de votre quotidienne existence. Le Seigneur de Noël éveille votre cœur et vos mains au dialogue et à la générosité qui seuls détiennent le pouvoir de changer la face de notre monde. Et sa parole faite de chair est la joyeuse musique illuminant chacun de vos jours. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix de Noël, dans la paix de Pâques, dans la paix de Dieu. Amen.